Bienvenue dans le débat. Imaginez un instant des élections éparpillées sur des millions de kilomètres carrés d'océan, des tout petits atolls coralliens où chaque bulletin de vote pèse lourd dans un jeu d'échecs mondial. Ce premier tour des législatives au Kiribati, ce 14 août, ça pose une question vraiment vertigineuse.
Oui, une question cruciale.
Exactement. Est-ce qu'on assiste à la confiscation pure et simple du pouvoir par l'exécutif, ou bien est-ce que cette démocratie insulaire prouve sa résilience face aux pressions extérieures? Personnellement, je pense pour la première option. Pour moi, ce scrutin masque une dangereuse dérive présidentielle alimentée par un rapprochement stratégique assez opaque avec Pékin.
Eh bien, je vois les choses d'un œil bien plus pragmatique, hein. Je ne crois pas du tout à cette théorie d'une soumission totale. Les électeurs des Kiribati viennent justement de prouver qu'ils gardent le contrôle de leurs institutions locales, peu importe les vastes jeux géopolitiques.
Vraiment, hein, parce que les chiffres bruts, ils donnent le vertige. Hein. Le président Tanety Mamao, il est réélu à 83% dans sa circonscription de Notoi.
C'est un score massif, ouais.
C'est un rouleau compresseur, ouais. Son parti, le Tobouane Kiribati Party, file droit vers une trentaine de sièges sur 44 au Parlement. Ce n'est plus une simple victoire. Et ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas juste ce score, c'est la méthode.
C'est-à-dire?
Depuis que l'archipel s'est tourné vers la Chine en 2019, l'exécutif utilise l'argent frais des infrastructures pour contourner directement les conseils locaux. Concrètement, on arrose les îles fidèles et on assèche l'opposition pour s'assurer une loyauté absolue.
Un rouleau compresseur. Permettez-moi de vous arrêter là. Si la machine présidentielle était si bien huilée par ces fameux fonds étrangers, comment vous expliquez que 6 ministres sortants aient été balayés dès ce premier tour?
Je dois avouer que c'est le point qui me rend perplexe. Comment le président peut-il écraser tout le monde avec ses 83% pendant que son propre ministre des Infrastructures, Willy Tokatake, se fait sortir dans son fief d'Abamama?
Ah, vous voyez?
Le président a-t-il sacrifié ses propres pions pour se sauver?
Pas du tout. Et c'est justement là que votre théorie du contrôle absolu s'effondre. Ça prouve que le système fonctionne de bas en haut. L'électeur kiribatien n'est pas aveuglé par les promesses d'infrastructures. S'il voit que le ministre ne livre pas de résultats concrets pour son atoll,
il le sanctionne.
Voilà, il le sanctionne. C'est le pouvoir de la base. Les citoyens agissent comme un véritable contre-pouvoir par les urnes, tout simplement.
D'accord. L'électorat joue ce rôle le jour du vote, ça je vous l'accorde. Mais regardez le tableau d'ensemble. Que se passe-t-il quand l'exécutif décide de démanteler l'autre grand contre-pouvoir institutionnel? Je veux dire, la justice.
Vous faites référence à la crise avec les magistrats?
Exactement. Le gouvernement a purement et simplement suspendu et écarté des magistrats étrangers, dont un juge australien de la Haute Cour. Une démocratie, ça ne se résume pas à mettre un bout de papier dans une urne. Si vous expulsez les arbitres en plein match, vous montrez une volonté évidente de confisquer les règles du jeu.
L'image de l'arbitre expulsé est très forte.
Ça paralyse toute future tentative d'opposition.
Je ne minimise pas la gravité de cette crise judiciaire, mais vous sous-estimez encore une fois la vitalité de l'opposition à Abemama, là où le ministre de la majorité est tombé. Vous savez qui a gardé son siège?
Tessie Eria Lamborn.
Exact, la chef de l'opposition. Et au-delà des figures politiques, regardez la véritable révolution de ce scrutin, à savoir la percée des femmes.
C'est vrai, oui. On a vu plusieurs candidates bousculer un peu les pronostics locaux.
Plus que bousculer, hein. Au Kiribati, le pouvoir se décide traditionnellement dans les manéaba, ces grandes maisons communautaires. C'est un système de consensus historique, mais aussi profondément patriarchal.
Ouais, tout à fait.
Le fait que les électeurs envoient aujourd'hui des femmes s'asseoir dans ces lieux de pouvoir, c'est un véritable choc structurel. Les électeurs se basent sur des enjeux immédiats. Vous voyez la montée des eaux, l'eau douce, le coût de la vie. Ils ne suivent pas les directives d'une superpuissance.
Je vois l'idée. Ce n'est pas un bloc figé sous influence. La dynamique locale reste imprévisible. Et c'est d'ailleurs toute la tension de notre discussion. D'un côté, nous avons ce risque palpable d'un recul démocratique, avec l'exécutif qui neutralise les institutions.
Et de l'autre, la réalité têtue d'un pragmatisme insulaire. Le citoyen continue de dicter sa loi en fonction de ses conditions de vie.
Le second tour du 19 août, avec ses 19 sièges encore en jeu, sera décisif. Il déterminera si Tanety Mamao aura la voie libre vers la présidence ou non.
Et pendant que les capitales analysent chaque bulletin de ses 120 000 habitants, n'oublions pas l'urgence existentielle du pays.
C'est sans doute la réalité la plus implacable. Pendant qu'on débat des règles à l'intérieur des manéabas, au dehors, l'océan continue de grignoter les atolls.
Merci de nous avoir suivis.